Il était une fois, il était une fois, Yem c'est qui c'est foi. Il était une fois,
c'est toi c'est moi,
Yem c'est toi c'est moi. Il était une fois, Yem c'est qui c'est foi. Il était une fois, Yem c'est toi et moi.
Vous le savez, quand nous entrons dans l'automne, nous voyons bogues et châtaignes, glands et marrons s'étaler au sol au pied de leur parenté. Certaines bogues, certaines châtaignes, certains glands, certains marrons serviront de jeu pour les enfants, d'autres d'aliments pour des animaux, d'autres encore se planteront et prendront la place de leurs parents pour donner encore de nouvelles bogues et châtaignes, de nouveaux glands et marrons pendant les automnes à venir. Vous le savez, nous le savons, je ne vous apprends rien. Pour l'instant. En effet, un jour, dans la forêt de Marchienne, dans les Hauts-de-France, un gland est tombé si vite et de si haut qu'il a roulé loin au-delà de la protection naturelle que le feuillage, la ramure, le houppier des anciens arbres apportaient ainsi naturellement à toute leur descendance. Il a roulé tellement loin, dévalant toutes les pentes, rebondissant sur les pierres, tressautant sur les cailloux, soulevant la poussière, qu'il s'est retrouvé, tout seul, au milieu d'un champ aride et sec, exposé aux quatre vents, sans plus la protection naturelle de ses parents tout autour de lui. Exposé aux quatre vents et à toutes les autres intempéries aussi. La pluie tombait parfois si violente et drue directement sur lui qu'il n'arrivait même plus à respirer. Et de brutales bourrasques environnantes tentaient encore de l'asphyxier. La grêle tombait parfois en grêlons si gros et lourds tout autour de lui qu'il devait toujours être en mouvement pour rester bien vivant au milieu de ces incessants bombardements. Le soleil restait aussi parfois si longtemps à l'écraser sous lui, sous la puissance de sa chaleur, que sa peau se craquelait toute seule et qu'il a même failli, à plusieurs reprises, mourir complètement grillé. Le froid restait aussi parfois si longtemps à l'écraser en lui, sous la puissance de sa morsure, que sa peau se craquelait toute seule et qu'il a même failli, à plusieurs reprises, mourir complètement congelé. La terre elle-même, sous lui, ne l'épargnait pas davantage en restant constamment fermée à toute tentative d'enracinement. Bref, seul, sans la protection naturelle du feuillage environnant de ses parents, le gland s'en mourrait au milieu de ce champ aride et sec qui allait bientôt se transformer en cimetière. Bon, vous vous demandez probablement pourquoi je vous raconte l'histoire d'un gland, et l'histoire tragique de ce gland-là, ici et maintenant. Écoutez plutôt la suite. Une nuit, profitant d'une bourrasque rasante soulevant les poussières, notre gland roula encore, mais cette fois-ci pour se mettre à l'abri. Il voulait se cacher. Qu'on ne le voit plus, que personne ne le voit plus jamais, que personne ne puisse le trouver et puisse sur lui à nouveau s'acharner. Ne pas se faire voir, ne pas être vu, connu ou reconnu, mais passer complètement inaperçu. Vivre dans l'ombre, et s'il le faut, dans sa propre ombre, et même jusqu'à en devenir l'ombre de lui-même. Se mettre constamment en position de sécurité, bien à l'abri, quitte à vivre toute sa vie dans la nuit. Notre gland développa alors une capacité extraordinaire à passer complètement inaperçu, à passer entre les mailles de tous les filets et presque à ne plus du tout exister et enfin à ne plus du tout être exposé. Il développa une réelle compétence à s'adapter par tous les temps, tous les instants, tous les moments et à chaque endroit différent à ce qu'on ne le remarque surtout pas et que ni pluie, ni vent, ni grêle, ni soleil, ni froid, ni même terre ne le voient ou le sentent jamais. Il devint même si doué à ce petit jeu qu'il devint effectivement l'ombre de lui-même. Il faut vous dire maintenant qu'il n'était bien sûr pas le seul gland à subir toutes ces agressions. En réalité, ils étaient nombreuses et nombreux à envier cette capacité à se dissimuler parce qu'ils étaient aussi nombreuses et nombreux à ne jamais avoir eu la protection de leurs parents au-dessus et tout autour d'eux. Alors, ils prirent toutes et tous exemple sur lui et apprirent à vivre constamment dans l'ombre, à être constamment l'ombre d'eux-mêmes, à n'être que des ombres. C'est ainsi que les oiseaux, nichant dans la forêt de Marchienne et dans ses alentours, virent progressivement apparaître des ombres mouvantes sur le sol. Même si les ombres ne se déplaçaient jamais en bande, mais restaient bien solitaires pour éviter d'être repérées, les oiseaux s'inquiétèrent de ce grouillement d'ombres sous leurs ailes, de ce tapis d'ombres incessamment mouvantes, aussi angoissées qu'angoissantes, et dont toutes les autres espèces vivantes se méfiaient. Il fallait agir avant que toute la forêt de Marchienne ne devienne elle-même que l'ombre d'elle-même. Gagné par le succès grandissant de cette ombre rampante, de ce noir désir de ne plus être, de se dissimuler. Mais il ne s'agissait même plus seulement de la seule forêt de Marchienne, parce que pendant que je suis en train de vous parler, l'ombre continue de gagner du terrain. Et ce sont maintenant les forêts de Mormal et même de Clairmarais, de Crécy et du Val-Joly qui se noircissent. Et le mouvement de l'ombre rencontre même un succès international qui dépasse largement les frontières des Hauts-de-France. La forêt noire est touchée au sud de l'Allemagne, celle de Sherwood au beau milieu de l'Angleterre, celle du Deccan au beau milieu de l'Inde, celle boréale au beau milieu du Canada et même celle amazonienne au beau milieu du Brésil. Vivre dans l'ombre de soi-même est devenu très tendance dans les forêts du monde entier. Alors, les oiseaux de toutes ces forêts se réunissent en une large et universelle conférence pour faire le point sur la réponse qu'il convient de construire face à une telle pandémie. Et cette large conférence des oiseaux décide de continuer à faire ce que seuls les oiseaux savent bien faire. Des nids. Oui, vous savez aussi très bien qu'à l'intérieur d'un nid, les volatiles mettent traditionnellement leurs œufs, tout fraîchement sortis de leur derrière, pour qu'ils gagnent en force et en maturité, et éclosent tout fringant de vivacité et tout piaffant de faim au terme de la couvaison. Bon, ça, vous le savez aussi. Mais ici, il s'agit de créer des nids de lumière que les volatiles assemblent à même le sol, pour que la lumière, celle qui rassure, celle qui réchauffe et réconforte, celle qui soulage et encourage, pour que les rayons de lumière filtrés par le feuillage des arbres soient accueillis dans des nids ajustés à leur nature, pour que la lumière y prenne toute sa mesure, et se déploie progressivement, toute fringante de vivacité. C'est ainsi qu'on voit apparaître, à certains endroits bien précis, des forêts de Marchienne, de Mormal et de Clairmarais, de Crécy et du Val-Joly, en forêt noire et de Sherwood, en forêt boréale et amazonienne, du Deccan, on voit apparaître donc des nids étranges, à même le sol, où les rayons de lumière filtrés par le feuillage des arbres sont accueillis et gagnent en force et en maturité. Alors, toutes les ombres intriguées, aussi angoissées qu'angoissantes, s'approchent méfiantes de ces sources lumineuses à même le sol. Notre gland, tout noirci de peur et de honte, crache d'abord dans le nid toute sa colère, toute sa rancœur, toute sa honte et toutes ses peurs. Bientôt rejoint par ses congénères, il tente toutes et tous d'éteindre ses nids lumineux et de tuer dans l'œuf l'idée même de lumière. Il crache toutes et tous le seul langage qu'ils connaissent, la seule langue qu'ils ont apprise. La pluie si violente et si drue, les brutales bourrasques asphyxiantes, les bombardements de grêlons si gros et si lourds, la puissance de la chaleur du soleil jusqu'à en griller, la puissance de la morsure du froid jusqu'à s'en congeler, l'ignorance et le mépris de la terre elle-même, jusqu'à s'en dénaturer. Ils crachent toutes et tous dans les nids le seul langage qu'ils connaissent, la seule langue qu'ils ont apprise. À certains endroits, ils réussissent à tuer dans l'œuf l'idée de lumière et à détruire des nids. Et à certains autres endroits, les oiseaux ne les laissent pas faire. Les oiseaux renforcent les parois, élargissent le cœur, le nombril, l'âme de leur nid de lumière. Les oiseaux y laissent d'ailleurs des plumes qui, s'embrasant au contact de la lumière, alimentent le feu qui couve au creux du nid. Et la permanence de cette lumière rassure notre gland, malgré toutes ces noires vociférations. La lumière émanant du nid le réchauffe même et le réconforte, le soulage et l'encourage même à entrer dans le nid. Sous l'effet de la chaleur et de la lumière du nid, la première peau de notre gland disparaît. Auparavant, il suffisait juste de jeter un œil sur sa cuirasse réfléchissante, recouverte de mille et une pupilles toutes de noir verni, pour qu'elle expulsât par l'un de ses pores un dard empoisonné qui transformait instantanément en pierre noire, en basalte, tous ceux et tous ceux qu'il touchait. La première peau de notre gland, enfin rassurée, se désagrège et disparaît. Puis, c'est au tour de la deuxième peau de disparaître. Sa cuirasse de fer, absolument impénétrablement, totalement, le recouvrait tout entier, des orteils aux poignets, des mollets au sommet de la tête, si tant est qu'un gland ait déjà disposé d'autant de membres. Sa cuirasse de fer fond, lentement, et enfin, réchauffée, disparaît. Et tout autour de lui, toutes les autres formes d'ombre, bogues et châtaignes, glands et marrons, assistent médusées à la transformation de notre gland originel. Puis c'est au tour de la troisième peau, celle hérissée de magnifiques fleurs aux vives et séduisantes couleurs éclatantes, dont les vénéneux pétales diffusaient un poison mortel au plus léger contact, de disparaître, enfin réconforté. C'est maintenant au tour de sa quatrième peau, sa cuirasse en cuir parfaitement ajustée au plus proche de sa peau, de s'attendrir et de partir en lambeaux, enfin soulagé. Sa cinquième peau, c'est le fait en peau d'âne, en poils rêches et sévères, s'adoucit tout entière, sous les caresses de lumière encourageante. Et notre gland originel encouragé ne s'arrête pas là. Le voilà maintenant qu'il enlève lui-même sa propre peau de gland et qu'une nouvelle créature, jusqu'alors inconnue, apparaît. Un grand silence s'étend alors dans les sous-bois et les ramures de la forêt de Marchienne. Plus rien ne bouge, ni ne respire. La nouvelle petite créature est humaine et elle dit « Moi, j'aime bien ça !» Un grand éclat de rire résonne sur les feuilles et jusque dans les troncs et les racines de la forêt. C'est tout Marchienne qui se marre et tressaute de joie. Maintenant, les autres bogues et châtaignes, glands et marrons, jusqu'alors tout enlaidis de noirceur, font la queue devant le nid de lumière pour elles aussi et eux aussi être rassurées, réchauffées, réconfortées, soulagées et encouragées. Et à chaque fois, chacune et chacun finit par enlever sa propre peau et retrouver sa petite forme humaine en criant de joie. « Moi, j'aime bien ça !» Et c'est ainsi que la vraie forme vivante qui se cachait toute petite tout à l'intérieur de chaque ombre reprend progressivement des couleurs, reprend sa véritable forme d'origine, reprend forme humaine, forme aimante. Et c'est ainsi qu'elles formèrent un nouveau clan. Elles s'appelèrent entre elles le clan des Yem. Certaines se sont plantées dans la forêt de Marchienne et sont devenues ces chênes remarquables que même les deux dernières guerres mondiales n'ont pu déraciner. Car n'oubliez jamais que nul ne peut jamais totalement tuer une graine de lumière et que nul ne peut jamais savoir quel arbre, quel être un gland peut devenir si on en prend bien soin. Moi, j'aime bien ça. Le conte est dit, je le remets à sa place.
Il était une fois, il était une fois, j'aime ce qui c'est foi. Il était une fois,
c'est toi, c'est moi.
Yem, il était,
c'est toi, c'est moi.
Il était une fois, yem, c'est qui c'est toi.
Yem, c'est toi et moi.
Yem, c'est toi et moi.